Je vous propose ce dimanche, chers amis, que nous regardions un peu de près ce premier envoi en mission des 12 apôtres. Jusqu'à présent, au moins dans l'évangile de Matthieu, Jésus avait 3 activités principales. Il enseigne, il proclame le royaume, il annonce la bonne nouvelle, et puis troisièmement, il guérit. Il guérit et il expulse les démons. Et donc là, on voit quelque chose d'un peu spécial, il faut vraiment bien regarder de près, mais quand Jésus va envoyer en mission les disciples, les apôtres, il leur donne seulement 2 de ces activités, mais pas 3. Il les envoie proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades et les démoniaques, mais il ne les envoie pas enseigner. Ils ne sont pas capables d'enseigner, pas encore. Ils ne sont pas assez formés. Même s'ils ont entendu le discours de la montagne, ils ne sont pas missionnés pour le répercuter. Et cette observation est intéressante pour nous aujourd'hui, au moins dans nos églises européennes, toutes ces dernières décennies, nous avons vécu l'inverse. Nous avons surtout enseigné, nous avons catéchisé, nous avons préparé au sacrement. Mais on pensait que c'était acquis, mais on n'a pas proclamé le kérigme, le noyau de la bonne nouvelle. Dire à chacun, mais est-ce que pour toi Jésus est vivant? Est-ce qu'il est mort et ressuscité pour toi? Pour toi, alors que nous sommes des milliards. Pour toi. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, les premiers apôtres. Le deuxième point, c'est qu'on voit ces apôtres sont envoyés. Ils ne sont pas envoyés donc pour pardonner les péchés, ni pour appeler d'autres disciples. Jésus leur demande de ne pas aller chez les païens, ni chez les samaritains. Vous voyez, c'est le signe qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais plus exactement, ils sont envoyés d'abord vers le peuple d'Israël, le peuple élu qui a reçu la bonne nouvelle, certainement pour Jésus, au moins dans un premier temps dans son ministère. Il pensait que les Juifs allaient le reconnaître comme Messie, et puis eux-mêmes iraient plus tard vers les païens et les Samaritains. Et pour nous, c'est important ce point, c'est qu'on est invité à rencontrer les plus proches d'abord, nos voisins, rencontrer, vous savez, toutes ces personnes du quotidien, ces rencontres imprévues où on peut tendre des perches. Et à ce sujet, je voudrais dire que les temps ont changé. Peut-être il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était très difficile de parler de notre foi à cause d'une forme de laïcité, puis on disait sans doute, ils vont penser que c'est ringard, etc. Aujourd'hui, ça a changé, parce que les gens cherchent beaucoup plus. Ils sont déçus. Plus que jamais, ils sont, comme on dit dans l'Évangile, ils sont prostrés comme des brebis sans berger. À qui faire confiance ? Quel leader suivre? Quelle direction prendre? Et aujourd'hui, on peut parler de sa foi assez simplement, pas toujours, mais beaucoup plus souvent. Et puis les gens nous disent, ben, ah oui, c'est important pour vous. Comment vous faites pour prier? Ah oui, j'aime bien aller dans les églises, je m'assois et j'ai plus envie de partir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça vaut le coup de voir que cette expérience de premier envoi en mission, il nous concerne aujourd'hui. Et puis un troisième point, Matthieu souligne dans tout son évangile que les leaders du peuple élu ont failli. Il y avait 3 catégories, le roi Hérode, il y avait les prêtres, les lévites du temple, les grands prêtres, et puis il y avait les pharisiens. Et le roi gouvernait, les prêtres et les lévites assuraient le service, le ministère, et puis les pharisiens enseignaient. Et Matthieu, dans l'évangile, montre presque, pas à chaque page, mais presque, qu'aucune catégorie n'est capable de guider le peuple. Je donne un exemple, c'est lui qui parle des mages, les mages sont des païens, les mages arrivent d'abord à Jérusalem, vous vous rappelez, le roi Hérode, avec tous les sachants, savent où va naître le Messie, à Bethléem, mais ils n'y vont pas. Et les premiers arrivés, Matthieu fait exprès de préciser, ce sont les païens. Ils les ont comme doublés sur leur droite ou sur leur gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? On comprend mieux pourquoi Jésus, aujourd'hui, choisit 12 disciples qu'il va appeler apôtres. Avec l'idée derrière, c'est que de prendre le relais des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire maintenant, c'est à vous de guider le peuple, parce que les autres leaders ont failli. C'est pour ça qu'ils sont 12. Ils proclament le royaume, ils font des guérisons, qui sont le signe tangible, pour pousser les foules vers Jésus, parce que ce sera lui, Jésus, qui enseignera. Parce que les apôtres, comme je l'ai dit au début, ne sont pas capables d'enseigner. Et là, il y a un point pour nous, c'est qu'on le sait peut-être plus en province qu'à Paris, mais il y a une raréfaction des prêtres qui se fait plus que sentir. Et je ne dis pas qu'ils ont forcément failli, mais ils sont moins nombreux, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses. Et c'est à nous baptiser, confirmer, d'une certaine manière, de prendre un relais, de prendre peut-être plus conscience que l'Église, eh bien, c'est à nous de la conduire. Et en conclusion, je dirais le point qu'on a entendu au début, c'est que Jésus prie. Il dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » S'il demande de prier pour des nouveaux ouvriers, c'est que lui-même a prié. Et on croit, on le voit aussi en Saint-Luc, qu'il passe une nuit en prière avant de choisir les 12. Le choix des 12 est le fruit de la prière de Jésus. Et il faut croire que Jésus prie pour qu'il y ait de nouveaux artisans pour annoncer la foi. Des artisans qui ne seront pas forcément très formés, il faut un minimum bien sûr, mais qui sauront parler, trouver les mots pour dire leur expérience, comme les 12 dans la première mission. Et là, on peut toujours continuer à prier, et peut-être que nous-mêmes, nous sommes le fruit de la prière des autres, et c'est à ce moment-là qu'on se voit, qu'on reçoit cette mission. On l'a choisie, mais on la reçoit aussi. Amen.